Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elles s'attablent ».
Elles s'attablent.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Pour ce nouvel épisode d'Elle s'attable, nous sommes dans un endroit un peu secret. Alors on est dans le 16e arrondissement de Paris, très très chic, juste en face du musée Galliera, un lieu devant lequel vous êtes un certain nombre d'entre vous et se sont certainement passés de nombreuses fois, très bel immeuble classique, derrière lequel se cache sans doute le traiteur le plus réputé de France, Potel et Chabot. Deux mots qui signifient excellence en France mais aussi à travers le monde. Nous sommes dans le bureau de Marie Soria, qui est la chef de Potel et Chabot. Bonjour Marie.
Bonjour.
Elle s'attable.
Merci infiniment de nous accorder un peu de votre temps. Nous avons un peu de bruit autour de nous, c'est normal, car le bureau de Marie se situe au cœur des cuisines de Potel et Chabot, qui a cette particularité assez incroyable aujourd'hui d'avoir vraiment le lieu de production en plein cœur de Paris.
Exactement. Moi, j'appelle ça mon noyau dur, le cœur du réacteur de l'entreprise. Et on a cette chance, c'est vrai, d'être dans le 16e. Et ça, c'est fantastique, parce que quand on passe devant le porche, on n'imagine jamais cette fourmilière qui est à l'intérieur.
Combien de personnes travaillent ici ?
En cuisine, on est à peu près, 70-80. Après, ça monte, ça peut monter beaucoup suivant les moments. Après, on a une quarantaine de pâtissiers, on a une bonne cinquantaine de commerciaux, on a des gens de la logistique. Il y a aussi des gens cachés qui gèrent tout l'entretien de ce magnifique bâtiment. Il y a aussi des hôtesses, enfin, il y a beaucoup de monde, oui.
En période de pic absolu, vous montez à combien ?
Sur des grosses périodes comme Roland-Garros ou le Salon du Bourget ou la Fashion Week, enfin, il y a des événements un peu particuliers qui sont marquants. Dans la cuisine, on peut monter à 150.
Oui, parce que la particularité donc, de Potel et Chabot, traiteur, c'est de préparer ici l'immense majorité des produits qui sont ensuite terminés sur place, sur l'événement. Et servi.
Exactement, c'est comme un pique-nique finalement. On prépare tout à la maison et puis on se déplace, on va dans des endroits différents, que ce soit nos pavillons ou des lieux de réception.
Première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est quoi l'événement le plus fou que vous ayez pu organiser ?
On en a tellement fait des choses fabuleuses, extraordinaires, je ne sais jamais par où commencer. Mais j'ai un souvenir en Égypte, complètement dingue. On devait travailler sur un bateau pendant une semaine. Et ce qui était fabuleux, c'est que c'était le début de l'A380. C'était la création de cet avion. Ils ne savaient pas s'ils allaient le faire, pas le faire. Donc, ils se sont réunis pendant une semaine. Et pendant une semaine, avec des ingénieurs, tous les gens des métiers de l'aéronautique se sont penchés sur cet avion. Et donc, nous, on devait, pendant une semaine, leur faire à manger sur le bateau et dans certains endroits de l'Égypte. Donc, on s'arrêtait et on se déplaçait. Et j'ai un souvenir extraordinaire parce que c'était une aventure. Et c'est ça, en fait, notre métier, c'est tout le temps une aventure. On imagine des choses. Même hier, on était dans un endroit fabuleux avec, pour un moment exceptionnel, parce que c'était une signature, c'était quelque chose qui va être marqué dans l'histoire. C'est toujours fabuleux parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, à quel moment ils vont passer à table.
Est-ce que vous imaginiez, quand vous vous êtes lancé dans la cuisine, vous aviez 14 ans ? Vous êtes rentré à l'école hôtelière ?
13.
13 ans même. Ouais, 13 ans. Est-ce que vous imaginiez que ce choix allait pouvoir vous mener à croiser l'histoire de cette manière ?
Alors, non, mais quand j'ai commencé à l'école hôtelière, mon chef des travaux faisait des réceptions parce qu'il avait un petit traiteur et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et moi j'ai tout de suite adoré ça en fait parce que c'est l'aventure. Même si c'était pas des gros événements parce qu'on était vraiment plus tournés sur des mariages, mais ce que j'aimais c'était d'arriver, de pas connaître l'endroit où on allait travailler, de découvrir une équipe nouvelle et puis finalement de faire un événement et de repartir glorieux.
En fait, Marie-Soria, vous écrivez des histoires.
C'est exactement ça. On crée des histoires et surtout on. Ce qui est important, c'est pas juste la cuisine, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la manière de servir, c'est ce maître d'hôtel qui va vous apporter un geste, qui va vous dire un mot. En fait, c'est cette mise en scène qu'il y a tout autour de l'événement qui fait qu'à un moment donné, il y a un souvenir qui se crée. Quand on arrive à créer ce souvenir, c'est que vraiment on a réussi. Et c'est pas tout de suite qu'on s'en rend compte, c'est plus tard, quand les gens vous en reparlent ou qu'ils ont vraiment ce petit moment dans leur tête qui se dit que c'était formidable.
Vous avez eu cette passion de la cuisine très jeune. Vous racontez souvent que c'est à Eugénie Les Bains, grâce à Michel Guérard, chez lequel vous alliez en vacances avec vos parents. Donc, je remercie ici vos parents, qui faisaient preuve déjà de beaucoup de goût à l'époque.
Oui, à la Maison Rose, qui était un endroit qui était charmant dans les thermes, où on avait un peu plus de liberté. Et c'était un endroit qui était fantastique. Ouais.
Et c'est la vision enfant de ces chefs qui vous a donné cette envie.
C'est ça, c'est que bon, il y avait un joli petit cheval derrière les cuisines et puis bah voilà, comme j'aime beaucoup les chevaux, j'étais attirée par ce cheval et je me souviens de ces cuisiniers à 11h qui sortaient pour déjeuner en fait avant le service et de ces tenues en fait, de ces togs, c'était comme un théâtre. Et donc j'avais pris l'habitude d'aller les voir avant le service parce que je savais qu'ils allaient sortir des tables et déjeuner. La passion a commencé comme ça parce que j'ai acheté les livres et puis j'ai commencé à faire les recettes avec mon papa parce que mon papa aimait bien cuisiner aussi le week-end hein, quand il avait le temps.
Manger était-il quelque chose d'important chez vous dans votre famille, Marie ?
Oui, hélas. Non, quand je dis hélas, c'est que la ligne est dure à tenir, mais qui n'aime pas partager un bon moment autour d'une table ? Je trouve que dans n'importe quelle culture, les moments importants se partagent autour d'une table. Moi, j'adore faire la cuisine pour mes parents ou même quand je vais en Bretagne et maintenant ils ont un petit peu avancé dans l'âge, mais souvent j'aime leur dire mais amène des copains et on fait un bon repas parce que je sais que c'est des moments qu'ils adorent aussi.
C'est donner de la joie.
C'est ça. Exactement, de la joie et c'est tout en sincérité en fait, il n'y a pas d'artifice.
À l'école, vous êtes une enfant, Marie-Soria, qui n'est pas forcément très épanouie et qui tout à coup va ouvrir les ailes.
C'est vrai, je m'ennuyais un peu en fait, on va dire, je regardais plus dehors que dedans. Et puis je ne voyais pas l'intérêt en fait de passer des heures assis à mon bureau. Et c'est vrai que j'avais une sœur qui était très studieuse. Enfin bon, elle avait des bonnes notes. Moi, non. Au grand désespoir de mes parents. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivée en école hôtelière, là, ça a été un pur bonheur, en fait. Là, il y avait...
Une révélation.
Une révélation. J'apprenais mes fiches techniques, mes bons d'économa. Et là, pour moi, ça ne me posait plus de problème de passer du temps au bureau, finalement, alors qu'avant, ça ne m'intéressait pas, parce que je pense que ça a été une évidence.
Vous découvrez le métier de traiteur pendant vos études.
Tout à fait.
À Quimper, donc vous commencez à faire des mariages. Et qu'est-ce qui vous a tant plu dans justement ce mode de travail-là ?
Ce qui est extraordinaire, c'est déjà, vous êtes le chef de votre réception. Il y a toujours un chef qui est... Alors à l'époque, j'avais un chef dans le traiteur où j'étais, mais qui est vite parti, qui m'a laissé la place. Mais j'aime ce côté où, en fait, on dirige, on est le chef, en fait. Quand le client vous voit et qu'il va vous expliquer ce qu'il attend de vous, même si le menu est déjà fait, évidemment, il a plein de choses à vous dire. Il vous regarde, c'est vous le chef. Alors, vous avez 20 ans, vous avez 22 ans, vous êtes fier. Et quand il part et qu'il vous dit merci chef, c'était super, ben,
vous êtes encore plus fier.
Mais bien sûr, quand on a cet âge-là, on n'est jamais seul en fait. Finalement, on est souvent entouré. Et j'aimais bien ce côté-là un peu liberté. Hein.
Vous dites, j'ai entendu dans un autre podcast auquel vous avez participé, que vous racontez que vous aviez entendu dire que Potel et Chabot étaient la référence des traiteurs.
C'est vrai. À l'époque, alors je vais arrêter de dire encore à l'époque.
Jadis.
Mais il n'y avait pas d'internet. C'était moins facile de trouver comme ça où est-ce qu'on pouvait aller travailler. C'était vraiment que du réseau. Et c'est un maître d'hôtel, oui, qui passait par là, qui m'avait dit « Va chez Potel, va à Paris, tu vas voir. C'est vraiment le traiteur où il faut aller. » Et donc, voilà, ma petite valise en route, dans le train, j'étais partie pour une grande aventure.
En 1820, le rôtisseur-pâtissier Jean-François Potel s'associe à Étienne Chabot, maître de bouche du duc d'Orléans. Ils ouvrent à Paris une boutique de gastronomie haut de gamme et inventent le métier de traiteur. Le jour de gloire est arrivé pour Potel et Chabot le 22 septembre 1900. Émile Loubet, président de la République, a l'idée de réunir dans les jardins des Tuileries tous les maires de France. Potel et Chabot organisent le plus grand banquet jamais réalisé au monde. Plus de 22 000 élus répondent à l'appel au menu. Darnes de saumon, filet de bœuf, ballotines de faisan, poularde de Bresse, salade Potel, glace, pâtisserie. Le tout arrosé de 39 000 bouteilles de vin fin, Margaux, Sauternes, Saint-Julien et Champagne. Grand leader des réceptions parisiennes s'exportant même aux États-Unis et en Chine, Potel et Chabot rue de Chaillot, 25 000 mètres carrés de cuisine, de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie, participe pleinement au rayonnement de la cuisine française à travers le monde.
Vous arrivez donc chez Potel et Chabot, on vous embauche.
Exactement.
Vous êtes toute jeune.
22 ans, voilà.
Aujourd'hui, vous dirigez.
Oui.
Les cuisines de Potel et Chabot. Alors, ça, vous avez passé pas mal d'années chez Potel.
Oui.
Plus de 25 ans.
Déjà, vous êtes sûre?
Je crois.
Plus, à peu près. Même plus.
Même plus. Est-ce que vous diriez que ça a été un cheminement très naturel?
Ça s'est fait naturellement et tout en bonheur, en fait, tout en plaisir. J'ai pas, quand je regarde derrière moi, je souhaite ça à tout le monde. Je m'amuse, je m'éclate. J'aime, en fait. J'aime le matin arriver. J'en ai presque... Enfin, c'est de l'émotion parce que je suis attachée à cette maison parce que j'ai grandi et elle est gravée en fait.
Elle fait partie de votre famille.
Oui.
Ce qui est particulier avec Potel et Chabot, Marie Zoria aussi, c'est que c'est une maison, littéralement, au sens propre du terme, dans laquelle beaucoup de personnes passent longtemps. C'est une maison, mais c'est une famille également.
C'est certainement une bonne maison parce que si les gens restent longtemps, moi on me pose cette question souvent, on me dit mais c'est bien chez Potel? Moi je réponds bah écoute, ça fait 30 ans que je suis là, donc finalement ça doit être pas mal parce que sinon ça fait longtemps que je serais partie. On y prend tellement de plaisir, on y vit des choses formidables, on travaille des produits extraordinaires. Pourquoi changer? Pourquoi aller voir ailleurs alors que vous êtes déjà pour moi au plus haut niveau de l'événementiel?
Et que vous pouvez aller voir ailleurs grâce à Potel puisque vous avez fait le tour du monde quasiment avec Potel et Chabot.
Oui bien sûr, c'est ça qui est fantastique, c'est que on va dans des endroits extraordinaires, on travaille avec beaucoup de chefs étoilés. On a cette chance de voir des choses différentes, de travailler dans des pays différents. Donc on ramène plein de choses quand on fait des salons aéronautiques, qu'on soit en Inde ou en Asie. On ramène, moi j'ai plein de condiments que j'ai appelés mon condiment Singapour. Parce qu'on a travaillé dans ces endroits-là et qu'on a ramené des choses, parce qu'on a fait des événements. Et grâce à ça, on a découvert des choses que je n'aurais pas forcément découvert si j'étais juste partie en vacances.
Alors, il y a une particularité dans ce que vous faites, qui est que vous êtes aussi, Potel et Chabot, l'entreprise, le traiteur, qui réalise de nombreux événements avec des grands chefs, pour lesquels vous êtes leur interprète, finalement.
Nous, on s'est multiplié le nombre de couverts sans se dire que ça va mal se passer. Voilà.
Le maximum.
Il n'y en a pas. Donnez-moi un objectif et je le réalise.
10 000 jouables.
Bah, 10 000, ça va être bientôt au Qatar. Donc, c'est grisant parce que c'est presque...
Pour c'est moi, une ville.
Et puis, c'est nouveau parce qu'on a fait cette année 6 000 couverts à Roland-Garros. Entre les déjeuners et les dîners, c'était déjà énorme sur 16 jours. Et là, au Qatar, c'est 10 000 couverts par jour. Donc, ça peut faire peur, mais je sais qu'on va y arriver.
C'est une organisation militaire. Le secret?
Alors, Oui, évidemment, dans une brigade, il y a quelque part un pourcentage qui fait que c'est militaire, parce que, alors on dit le chef, c'est le chef, mais moi je trouve que le chef peut aussi s'appeler Marie. Maintenant, le chef peut être tutoyé, et la porte du bureau est ouverte. Pour moi, on est plus un leader d'une équipe, et on doit savoir l'écouter, la suivre, et c'est comme ça que ça marche, hein, sincèrement. Et les jeunes sont prêts en fait à travailler dans des métiers comme les nôtres, mais il faut les écouter et il faut les attendre. Il faut savoir ce qu'ils ont aussi besoin, parce que les besoins sont différents. Maintenant, on a beaucoup plus de passion. Maintenant, il y a tellement de possibilités différentes. Donc oui, il faut s'adapter. Et moi, j'ai besoin des jeunes demain et je veux qu'ils viennent chez Potel et Chabot. Donc il va falloir qu'aussi on les écoute.
Alors justement, ça, c'est une vraie question. On est post-Covid, enfin encore un peu dedans, mais...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça a été une mutation accélérée de nos sociétés et ça a complètement transformé leur rapport au travail, notamment dans les métiers de bouche et les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. De quelle manière diriez-vous, Marie, que ça a fait évoluer votre métier de traiteur ?
On avance beaucoup plus vite, c'est-à-dire que maintenant, on se pose des questions. Avant, c'était non, mais bon, non, ça, c'est pas un sujet. Mais si, en fait, c'est le sujet, le bien-être. Comment demain on peut travailler 4 jours à la place de 5 pour que les gens puissent partir 3 jours. J'ai des équipes qui peuvent faire du télétravail. Il y a des jours où, quand on fait des fiches techniques, ou quand on travaille sur du personnel, ou quand on travaille sur des organisations comme Roland Garros, évidemment, on peut avoir des jours à la maison. Et c'est vrai que. Quand c'est en cuisine pure, évidemment, là, ça va être compliqué, mais je suis sûre qu'il y a des nouvelles façons de travailler qui vont nous permettre justement de faire évoluer ce métier grâce à ça, parce qu'on n'a plus envie de passer trop de temps et de ne pas avoir de vie à côté. Et c'est, ce qui est important, c'est d'avoir les deux, sa passion et sa vie.
Je sais que j'ai entendu dire que vous aviez un projet de nouveau labo.
Oui.
Qui va être très différent de ce qu'il est actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Pour l'instant, on est sur un projet, mais c'est vrai qu'Alain Postic, mon directeur, mon président directeur général, m'a dit une fois en rigolant, il me dit « qu'est-ce que tu voudrais dans ton labo ?» Je lui dis « Alain, je sais que je vais tout avoir en technique parce qu'on aura cette chance de pouvoir avoir un labo qui va être fantastique. Et je vais être la chef aussi qui crée ce labo pour quelques années et je veux qu'il soit sublime. » Mais je veux aussi une salle de sport, une salle de repos, un parking pour les vélos électriques. Je veux demain qu'on soit regardé et qu'on soit fiers de montrer cet outil, en fait, qui sera l'outil de demain pour nos futurs événements. Et je veux que les gens ils aient envie de venir travailler chez nous.
Elle sa table.
Plutôt côté cuisine maintenant et côté traiteur, est-ce que vous avez eu l'impression sur les 25-30 dernières années d'avoir vu des évolutions importantes dans les attentes des consommateurs ou des clients ?
Nous, on répond à des demandes. Là, en ce moment, on est dans le végétal, on est dans le léger, on mange moins de protéines, on est tourné plus sur les légumes. Donc, évidemment, moi, je suis en fait les tendances. C'est pas comme dans un restaurant, en fait. Moi, c'est des clients qui viennent me demander quelque chose, donc ils attendent aussi beaucoup d'élégance. C'est vrai qu'avant, le traiteur, on était plus sur des services au plat, maintenant on est tourné plus sur des services à l'assiette, mais comment on va apporter cette assiette ? Donc il y a tout le jeu en fait qui va se travailler avec le service maître d'hôtel, avec la scénographie, avec un ensemble de choses, et finalement... Aujourd'hui, on est arrivé à des choses qui sont fantastiques puisqu'on ne parle plus juste d'une recette, mais plutôt d'un thème global qui va regrouper l'assiette, la recette, la tenue du maître d'hôtel, la manière de servir, la communication qu'on a fait autour de cet événement. Et en fait, vous vivez une expérience globale et ça, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on évolue. En fait, avant, on mangeait un plat, une entrée, un dessert. Et là, maintenant, vous vivez une expérience jusqu'à la décoration de la table, jusqu'à l'infusion qui a été travaillé spécialement, jusqu'à l'alcool qui a été allégé. Il y a une évolution qui est juste extraordinaire, fantastique. Et là, on ne s'arrête plus, en fait. quelle sera la réception de demain. Je la connais pas encore, mais je sais qu'on va la créer tous ensemble, en fait. C'est pas juste une recette, c'est un ensemble de tous ces métiers qui fait que Potel est le leader aujourd'hui.
Et alors, comment nourrit-on cette créativité ?
Cette créativité, c'est un ensemble de choses. Moi, je suis pas la seule à travailler sur les cartes. Ma cuisine est remplie de gens qui réfléchissent et qui proposent. Et tous ensemble, en fait, en avançant avec certains thèmes, on choisit des thèmes et ça nous fait avancer et trouver des choses. On a aussi des fois des objectifs, des clients qui nous demandent des choses. Et grâce à ça, on va créer des concepts comme la rougivrée sur l'opéra où c'était un ballet qui partait du blanc et qui se transformait en rouge parce qu'elle finissait aux enfers, la danseuse. Et donc, on a travaillé cette rose rouge qui s'est givré. Si j'avais pas eu cette demande, cette rose, je l'aurais peut-être pas créée. Finalement, en fait, c'est grâce à ces choses-là que
vivent les contraintes.
Exactement. Alors, il y a pas que ça, mais ça fait aussi partie de la création. Et je trouve ça génial. Et puis, on a toute cette force, en fait, cette force d'équipe qui permet
du collectif.
Du collectif,
oui. Si on vous disait, imaginez quelque chose que vous n'avez pas encore fait, que vous rêveriez de faire. Qu'est-ce que serait Marie ?
Je ne me rends pas forcément compte au début, quand on fait une recette, qu'elle va fonctionner et que ça va devenir une signature. C'est ça, en fait, qui est fantastique. C'est qu'au bout de quelques années, on se rend compte que certains plats, comme par exemple, j'ai fait une balade en forêt qui était faite pour un événement donné. Et quand j'ai fait cette recette, je n'imaginais pas le nombre de fois où j'allais la servir et où, en fait, on allait me dire « Waouh, c'est génial ». C'est plus comme ça que je le vois, en fait. Ce n'est pas sur le moment, parce que sur le moment, on fait quelque chose. Après, évidemment, il va y avoir ce petit truc en plus qu'on va rajouter, qui va être givré, qui va exploser. Enfin, c'est aussi la différence avec peut-être un restaurant, alors que maintenant, enfin, je dis, les restaurants aussi maintenant se mettent dans la scénographie, dans la manière de servir. Enfin, ils se posent plein de questions aussi parce que c'est aussi demain leur différence.
Qu'est-ce que balade en forêt ?
Alors, balade en forêt, pourquoi ? Parce que c'est une assiette, en fait, que j'ai créée pour un thème. Je crois que c'était campagne ou... Je me souviens plus, mais ça devait être... Voilà, c'était l'automne, voilà. Et il y avait du foie gras, il fallait faire une entrée à base de foie gras. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, autour de ce foie gras pour le rendre un peu glitter, un peu rigolo. Et donc, on a commencé à chercher. Et je me suis dit, bon, il y a ce foie gras, j'avais du cacao sur la table. Et puis, je me suis dit, on va partir sur une balade, donc avec des textures. Et de là est partie une feuille... Les feuilles d'automne qui tombent. Et puis là, je me suis dit, tiens, il faut qu'on ait de la mousse. Et puis c'était parti, en fait. Et elle s'est appelée Balade en forêt parce que c'est comme un paysage, comme un tableau. Et ça s'est fait, en fait, naturellement, parce que justement, il y a cette petite demande au départ, ce thème. Et ça a été vraiment un succès.
Vous êtes une femme. On parle beaucoup de la place des femmes dans notre société, etc., etc. On sait que l'univers de la cuisine était un univers qui, pendant longtemps, n'était pas un univers très féminin. Est-ce que vous avez l'impression, Marie Soria, que ça change ?
Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais une femme, j'avais les cheveux longs, j'étais brune, j'étais jolie. Alors que maintenant, vous pouvez arriver maquillée, boucle d'oreille. On a le droit d'être belle en cuisine aussi, d'être féminine et d'avoir sa vie de famille. Enfin, c'est ce côté-là qui évolue. Et quand je vois aussi les jeunes qui rentrent chez nous, les apprentis ou les jeunes qui viennent faire des stages, il n'y a pas de différence. Alors qu'avant, on me regardait un peu comme un extraterrestre. Maintenant, vous arrivez en cuisine, femme ou homme, c'est normal.
La question n'est pas là.
Non, la question n'est plus là, heureusement.
Et que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il y a une manière féminine de cuisiner ?
Ça fait quelques temps que je fais les cartes chez Potel et quand j'ai pris la place, c'est vrai que mon chef m'a bien fait, m'a transmis en fait ma place et m'a préparé. Et quelques années avant, je faisais déjà les cartes de chez Potel et quand j'ai été officiellement la chef de chez Potel, on m'a dit « Oh, Marie, ta carte, elle est complètement féminine par rapport à la dernière. »
C'est complètement différent.
C'est complètement différent, mais pas du tout, puisque ça faisait déjà au moins 2-3 ans que je travaillais les cartes. Et donc, le côté féminin, ça, c'est vous qui le mettez. C'est juste un regard, en fait.
Le fait d'avoir des équipes mixtes, est-ce que ça change un peu les choses ?
Quand il n'y a que des hommes, on s'ennuie, non ? Alors que quand c'est mixte, voilà, ça apporte tout ce que ça doit apporter. C'est comme dans une cour de récré, il y a un mélange de gens. Et ça doit être la même chose en cuisine. Alors, chez Potel, on a cette chance d'être nombreux et quand on a des femmes qui ont une vie de famille et qui ont des bébés, et qui, il faut réussir à les garder et qu'elles grandissent. Et nous, dans des grosses structures comme ça, on a cette chance de pouvoir le faire. Et j'ai une Anaïs fantastique qui vient d'avoir un bébé et qui est là et qui va grandir et qui va rester chez nous et qui va évoluer. Et heureusement, Heureusement que je ne perds pas mes talents, parce que la femme a aussi des choses différentes à faire de l'homme. Mais moi, je trouve ça fantastique, femme, homme.
Les chefs disent souvent que sans produit, ils ne sont rien. Est-ce qu'être traiteur aujourd'hui, c'est surtout quand on travaille avec des volumes et une ambition qui est celle de Potel et Chabot, est-ce que ça consiste aussi à s'interroger sur les produits, sur les producteurs avec lesquels on travaille, et éventuellement même de développer des produits avec eux?
Alors, c'est exactement comme ça, en fait. On a cette chance d'avoir un vrai service achat qui nous aide et qui nous propose aussi des choses. Après, on travaille avec des bouchers. Moi, je suis toujours à chercher la nouvelle pièce, celle qui va être aussi un peu wow, grande, qui va être waouh, ou Éric Roy qui nous fait pousser nos légumes au bon moment, par exemple pour Roland Garros, ses petites carottes. Tout ça, en fait, c'est un vrai travail en amont, parce que on peut pas se dire tiens, je vais au marché puis je vais faire une réception. Non, ça marche pas, parce que la réception, elle est déjà mise, elle est déjà prévue. On a déjà eu un testing, donc tout ça, c'est déjà écrit. Donc évidemment, il faut que nous, en amont, on ait déjà ces priorités, en fait.
Oui,
donc,
les garanties de pouvoir
exactement. Donc,
produire.
On suit les saisons, on travaille les tomates quand il faut les travailler, mais il y a un vrai travail de recherche pour moi de produits comme cette. On a une selle de veau qui est fantastique, qu'on a travaillé avec le boucher, au mieux de couper les viandes en deux. Là, on a la selle qui est entière comme une selle d'agneau, et moi je trouve ça fantastique, parce que quand on amène ça en salle, c'est un vrai produit. Il y a cette vraie mise en œuvre qui est importante, et c'est pareil quand on va pêcher certains poissons, on les pêche pendant les périodes de pêche. C'est des saisons à respecter. Pour moi, c'est aussi demain l'image de la maison, donc c'est important qu'on respecte et qu'on suive les saisons.
La clientèle le comprend, le fait qu'il n'y ait pas de la tomate toute l'année,
De plus en plus, de plus en plus. Avant, c'était un peu compliqué. Après, je dois aussi vous avouer que sur un dîner, c'est facile, hein, parce que vous avez une entrée, un plat, un dessert. Mais sur un cocktail, il y a quand même une grosse possibilité de produits. Et si l'hiver, on ne sert que de la betterave et du poireau...
Et de la courge.
Ouais, ça va être un peu ennuyeux. Alors des fois, on dérape un peu, mais on va déraper sur des produits, par exemple, qu'on a stockés, ou qu'on a fait confier, ou qu'on a fait fermenter, pour pouvoir permettre justement d'avoir un peu plus de variété, exactement.
Est-ce que vous avez l'impression d'être devenue comme d'autres femmes, je pense à Hélène Darroze, à Anne-Sophie Pic, etc., d'avoir rejoint peut-être une forme de club, même un club informel, d'exemple et de mentor pour la jeune génération?
Je ne me compare pas forcément à leur carrière, parce que c'est vraiment des chefs étoilés. Et moi, je suis chef d'événement, ce qui est complètement différent. C'est pas tout à fait le même métier.
Jamais eu envie de cette reconnaissance-là, d'ailleurs?
Non, parce que j'ai leur reconnaissance, parce que je sais que quand elles viennent travailler chez Potel, c'est qu'elles me font confiance et qu'elles font confiance à la maison. Donc ça me suffit. Puis moi, je m'éclate dans ce que je fais, en fait. Je ne me pose pas la question. Je sais que par rapport à nos retours de clients, je sais que ce qu'on fait est bien, et qu'on a des belles recettes, et tout ça mis dans un ensemble de choses qui fait une expérience globale, et moi je suis fière de ça, en fait.
On pose souvent la question à la fin de ce podcast, Elsa Table, en quoi pensez-vous qu'on peut changer le monde à travers l'assiette? Et est-ce que vous pensez que les femmes ont un rôle particulier à jouer là-dedans?
Alors oui. Je pense qu'on a une manière, on le sait tous, hein, on a une manière différente de penser entre l'homme et la femme. Il n'y a qu'à juste se retrouver dans une voiture avec un plan. On a des comportements différents. Donc je pense que moi, en cuisine, je pourrais changer le monde dans mon métier de cuisinier, bien sûr. Hein, parce que j'ai un regard différent d'un garçon, c'est sûr. Et je sais que ça va apporter ce côté peut-être plus doux, peut-être plus maternel. Quand je manage mes équipes... Je suis un peu leur maman, un peu, mais aussi leur chef. Donc, pour moi, il faut que j'ai des bébés dans la cuisine des nouveaux qui vont demain être les garants de Potel et Chabot. Ça peut aider. Mais quand je discute avec des chefs comme Yannick Aleno, ils ont aussi ce regard parce qu'ils ont besoin demain aussi d'avancer avec ces nouvelles générations. Donc, je pense que ensemble. On va changer le monde au niveau de ce métier, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on souffre. Mais ça va nous permettre de trouver les bonnes limites pour que demain, ça devienne un métier qui soit aussi un métier passionnant, toujours, mais avec cette vie à côté.
Merci infiniment, Marie Soria, pour ce moment avec vous au cœur de Paris, chez Potel et Chabot.
Merci à vous.
J'espère que cet épisode vous aura plu. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode. Mais d'ici là, n'hésitez pas à le commenter, mettre des étoiles évidemment, le partager, le liker. Et donc rendez-vous bientôt pour un autre épisode d'Elsa Table.
Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elsa Table, en podcast sur toutes les plateformes de streaming.